À 18 ans, Sacha et son meilleur ami Tom ont quitté Montréal pour Dawson City au Yukon, cherchant la liberté au sein d'une communauté de punk et de vagabondes. Mais quand l'amour s'en mêle, la fraternité vole en éclats. Accusé de trahison, Sacha devient la cible du rejet collectif avant de se retrouver confiné dans une cabane isolée alors que tout un village fait son procès. C'est ce récit, né du roman d'Emmanuel Pierrot, que porte la pièce « La version qui n'intéresse personne », une création du Théâtre du Trident, du Théâtre de la Famille et du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui en coproduction avec le Théâtre de l'Œil, qui sera présenté donc au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui à compter du 15 septembre jusqu'au 10 octobre. Wow! J'ai tout dit ça! Alors, on y va! Pour discuter de tout ça, ben, vous avez entendu ces rires, parce qu'on reçoit Lirel Dauphin et Mélissa Huguère, qui font partie de la distribution. Hey, bienvenue tous les deux.
Merci.
Toutes les deux. À vous deux, donc, je pose cette question, parce que, bon, on n'a pas la personne qui a fait l'adaptation, mais j'imagine que vous êtes au courant un peu de tout ça. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'adapter ce récit d'Emmanuel Pierrot sur la scène?
Oui,
ouais. J'y vais. Donc c'est Marie-Claude Saint-Laurent qui a adapté le roman pour le théâtre. Et dans le fond, Marie-Claude et Marie-Ève Milot, ils ont fondé la compagnie du théâtre de La Famille en 2009. Puis leur compagnie s'intéresse vraiment à créer ou à recréer ou à faire vivre et revivre une culture des femmes en mettant en lumière leurs expériences dans les sphères privées, sociales, politiques et artistiques. Puis justement, Pierrot, en écrivant ce roman-là, a créé un personnage, une jeune femme qui fait le choix de vivre et de trouver réparation en se racontant une femme qu'elle invente au travers du roman. Puis c'est ce geste-là, pour Marie-Claude, d'imaginer pour survivre, qui rejoint toute sa raison d'être, son envie d'être et de créer, d'après ses propres dires. Ouais.
Ah, ben j'imagine que vous êtes au courant toutes les deux parce que vous avez contribué à la création. Hein?
Ben, on contribue quotidiennement à la création. Oui, si je veux dire, comme la base du texte de Marie-Claude qui est énorme, là, qui a travaillé d'arrache-pied puis qui a fait plusieurs versions. Plus après, il y a un peu de comme nous qui se mélange un peu dans tout ça avec nos propres manières de dire. Tu sais, je veux pas, c'est une adaptation. Fait qu'on peut pas faire tous les personnages du roman. Tu sais, fait qu'il y a des personnages qui ont été contractés ensemble et tout ça. Donc après, ben, on prend un peu de notre personnalité là-dedans ça, et tout. Là, donc, c'est bien chouette.
Comment décrit-on la réalité, une réalité complexe, justement, de ces personnages-là qui sont des personnages un peu en marge, mais sans tomber dans les clichés. Ça, c'est important, là, les clichés, on ne veut pas ça au théâtre.
Oui, on connaît ça. je pense que comme dans chaque chose, c'est les situations, c'est la vérité. C'est de se baser sur les choses qui arrivent et pas représenter une image stéréotypée, justement. Ce n'est pas de faire comme « voici les codes de ce stéréotype et on vous présente ça ». C'est plus qu'est-ce que ces gens-là vivent, puis de le faire... d'une manière comme multisensorielle aussi dans la pièce, je veux dire, comme avec des silences, avec des rires, avec des nuances, tu sais. Je pense que c'est comme ça qu'on réussit à mieux raconter la marge, puis je le sais, c'est ça que je fais aussi dans ma vie, mais comme d'y aller dans la nuance, d'y aller dans comme l'humanité, tu sais, de comme voir que tout le monde a une part d'ombre, tout le monde a une part de lumière, puis que il y a cet esprit de communauté-là aussi qui fait que oui, il y a une marge, mais cette marge-là est vivante et existe et complète, et après, c'est ses propres problèmes, on s'entend, parce que comme dans la pièce, ça s'avère pas super génial, cette communauté-là. ce qui est encore plus difficile, parce que quand t'es dans la marge, puis que finalement, tu te ramasses dans la marge, ben là, c'est comme que faire, tu sais, puis c'est, je pense, beaucoup cette question-là que la pièce pose aussi au final.
Parce que tu as ouvert la porte, Lirel, est-ce que tu me permets, parce que tu disais que toi aussi, au quotidien, tu te retrouves dans la marge. Peux-tu expliquer pour ceux qui ne connaissent pas cette réalité-là
qui t'entoure? Moi, je parlais comme plus en tant qu'autrice moi-même de mes propres projets, puis en tant que femme trans, là, au final, il y a beaucoup de ça dans ma réalité, puis... Comme je défends souvent des personnages trans, des personnages marginalisés, ben j'essaie toujours d'amener comme une humanité là-dedans ou de guider aussi les personnes qui écrivent vers un aspect qui est un peu plus humain, qui est un peu moins, tu sais, on est un peu moins dans le spectacle, un peu moins dans l'espèce de... un peu comme la pornographie de la douleur, tu sais, que moi, je trouve que c'est un petit peu, tu sais, on est un peu dans la sur-représentation de la douleur.
Un peu comme ce que t'as fait dans Empathie, finalement.
Exactement.
Parce que dans Empathie, ce personnage, tout le monde aime le personnage que t'as défendu. Ouais. Et c'est un personnage qui est dans la marge, effectivement.
Ben oui, exact, mais qui, au final, prend sa place et par son humanité puis par ce qu'elle apporte aux autres, a une place où elle est absolument acceptée et reçue et aimée, tu sais.
Mélissa, tu voulais dire quelque chose?
Ben, je pensais juste au roman puis au succès que ce roman a eu. Puis moi, ce qui m'a vraiment marqué dans l'accueil du roman, c'est à quel point il est allé toucher toutes sortes de gens, sortes de communautés, toutes confondues. Puis je pense que autant dans la langue de Pierrot que dans justement l'adaptation que Marie-Claude en fait, il y a cette connexion à l'humanité, tout simplement, qui nous dégage de toute l'image de l'inaccessible, de la marginalité, puis qui vient juste, comme l'Iraël l'a bien nommé, chercher la vérité chez les gens.
Ben, j'aimerais peut-être vous amener dans le contexte actuel. On ne peut pas passer à côté parce qu'on vit dans un monde assez difficile. qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce texte, cette pièce?
Oh, mon Dieu! Mais je veux dire, comme c'est pas juste, tu sais, je pense que c'est tout ce qui est autour, un peu comme Mel dit, tu sais, tout autour, tu sais, comme même Pierrot, tu sais, comme toute cette existence, ce besoin de vivre. Puis aussi, tu sais, comme juste le titre, je veux dire, comme on en tant que personne vue comme femme aussi, je pense que comme toutes les violences faites aux femmes, tout ce langage-là qu'on n'avait pas, tu sais, comme de voir ces choses-là, tu sais, moi, ça me fait beaucoup penser aussi à la série, mettons, I May Destroy You de Michaela Cole, qui est une série britannique incroyable qui parle beaucoup des violences sexuelles, qui parle beaucoup des violences générales. Je trouve que cet aspect-là dans la pièce qui est extrêmement bien représenté de comme les différents types de violences, puis qui fait beaucoup écho à justement ce monde-là dans lequel on vit, tu sais, où il y a énormément de violences, mais qui est cette espèce de... C'est cette attention du détail puis des choses simples comme la relation entre le personnage de Sacha et son chien, tu sais, au final, qui lui fait s'accrocher à la vie, tu sais. Au final, je pense que c'est dans le soin des autres aussi, puis dans le soin qu'on reçoit, qu'on a envie de vivre des fois, tu sais. Fait que ça se peut être communauté.
Ouais, puis je pense que moi, toujours dans l'accueil de cette histoire-là, il y a cette notion de « on te croit » qui... En fait, cette notion d'écoute puis d'accueil... qui n'est pas nécessairement à l'intérieur de l'histoire, parce qu'à l'intérieur de l'histoire, beaucoup de rejet, beaucoup de solitude, mais une fois que cette histoire-là est partagée au grand public, entre guillemets, ben, tu sais, moi, je me rappelle à ma première lecture du roman il y a 4 ans, j'étais comme, mais je suis tellement là pour cette personne-là, je la crois tellement, je voudrais la prendre dans mes bras, je voudrais la supporter, tu sais, fait que...
As-tu pu être contente d'être dans la distribution, finalement?
Oh my God! Ben là, c'est sûr que moi, quand j'ai reçu l'audition, quand Olivier Artaud m'a invité en audition, j'étais tellement... j'étais plus qu'heureuse, j'étais juste tellement ravie de pouvoir défendre cette histoire-là puis ce personnage-là, tu sais. C'est clair.
Il faut dire qu'Olivier, je pense qu'il défend beaucoup hein, ce genre de textes qui mettent de l'avant des personnes...
Marie-Ève aussi, oui. C'est ça, c'est vraiment la mission de comme... Ben, tu sais, c'est la version qui les intéresse au final. C'est vraiment ça qu'ils veulent mettre dans la lumière. Là.
Vous venez à une question, je vais sauter d'une question, j'ai la celle-ci, parce qu'on s'est un petit peu parlé sur les questions, mais je vais en sauter une parce que je trouve que quel est l'état d'esprit que cette partition-là vous demande au quotidien quand vous jouez là, dans vos.
Oh my God!
On est vraiment. Déjà, tu sais, la bonne question, je vous entends rigoler.
Non, mais tu sais, on a eu un gros enchaînement, grosse répète hier aussi, fait qu'on est vraiment, tu sais, là-dedans. Là.
Ouais, il faut dire que moi, en général, tu sais, comme j'ai fini mon conservatoire il y a 2 ans, il y a quelque chose qui, même à l'intérieur de l'école, me questionnait beaucoup sur c'est tellement pas un métier. Déjà, en général, les arts, on en parle tellement pas tant, on reconnaît très peu ce métier-là, mais le fait de jouer, c'est tellement un état qui est peu étudié, tu sais, comment on fait, justement, pour entrer puis sortir d'une répétition, tu sais, c'est quand même... Je travaille, moi, mon outil de travail, c'est mon corps, mon canal émotif, fait que comment je fais pour départager les choses, avoir la bonne part de dissociation puis d'association à l'intérieur de moi. C'est sûr que cette histoire-là, elle demande beaucoup d'énergie émotionnelle. Quel état d'esprit ça demande? Ben, ça demande de bien dormir, bien manger, puis se gâter, pour vrai.
Pas trop donner d'entrevue de radio, c'est pour ça que j'apprécie celle-ci. Mais je trouve parce que j'ai l'impression que ça vient aussi vous chercher sur le plan personnel parce que les personnages sont prêts quand même d'une réalité qui est près de vous.
Oui, mais aussi, tu sais, je pense que c'est ça la beauté de notre métier dans le sens où c'est de se rendre au service d'une histoire, tu sais, puis c'est comment honorer ces personnages-là, comment honorer dans leur vulnérabilité, dans leurs nuances. Puis aussi, tu sais, comme ben, des fois dans leur méchanceté, je veux dire, comme, tu sais, on fait des choses qu'on ne ferait pas, là, je veux dire, que mes personnages dans la pièce font que moi, je ne ferais pas, disons, puis pour le faire tous les jours, puis pour comme le faire subir à quelqu'un que j'aime beaucoup, il faut que, tu sais, on soit dans un état de comme, en ce moment, on sert cette histoire-là, tu sais. Ouais. Faut pas jouer la fin, tu sais. Faut toujours essayer d'être comme au fur et à mesure, puis comprendre pourquoi nos personnages agissent de cette manière-là, pour justement que les choses se révèlent, puis pour que la magie existe et apparaisse entre le public et nous sur scène, tu sais.
Ouais, puis je pense que ça prend un état de confiance.
Ouais. Énorme.
Un énorme état de confiance avec l'équipe, puis... Je me rends compte que j'ai tellement, c'est tellement une chance, mais j'ai tellement pas à le creuser dans l'équipe où on est. Il y a quelque chose d'intrinsèque. Mm-hmm.
Et encadré aussi.
Ouais,
on a une cordeau d'intimité, Jen, qui est là pour nous aider avec tout ce qui est comme plus difficile.
Cordeau d'intimité,
plus intime.
Juste pour les gens qui ne savent pas c'est quoi.
une coordonnatrice d'intimité, c'est une personne qui va faire des chorégraphies, si on veut, ou qui va s'assurer du confort, niveau consentement, niveau limite de chacun, chacune des interprètes, pour les scènes qui sont plus intimes ou qui vont demander un effort comme particulier ou plus vulnérabilisant.
T'sais. C'est ça, Jen est avec nous en répétition, mais juste accessible tout le temps.
Ouais.
Pour nous.
Comment on travaille ça, la tension entre la marginalité du propos, puis on est un peu dans un théâtre où c'est plus institutionnel. Encore des questions compliquées. Hein?
Je pense que ça fait du bien parce que on le sent aussi à l'intérieur de la pièce. Je pense que vous allez, je veux pas trop en dire, mais comment Marie-Ève nous introduit à cette histoire-là sur scène. Ouais.
Marie-Ève, c'est la metteur en scène.
Ouais, Marie-Ève Milot ne plonge, en fait, dans cette tension-là. L'ignore pas, au contraire, l'embrasse. Puis oui, en effet, c'est une histoire marginale. Oui, elle est jouée dans un théâtre institutionnel, mais on fait pas semblant de rien, on le sait, on le regarde, puis on y va, on le porte. Fait que si vous voulez voir de quoi cette tension a l'air, je vous invite à être au CTDA du 15 septembre au 10 octobre ou au Trident du 4 au 28 novembre.
Bon, je vais sauter à ma dernière question parce que c'est vraiment intéressant de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que cette histoire-là révèle sur la façon dont notre société perçoit et juge la précarité, d'après vous? Je sais que comme je dis, je n'ai pas lu la pièce, je n'ai pas lu le roman, mais je suis allé voir ce qu'on disait, puis là, je me disais, ça, c'est une question qui m'intéresse, qui intéresserait. Comment on se sent vis-à-vis ça? Parce que c'est quand même des personnages qui vivent dans la marginalité et la précarité.
Oui, c'est des gens aussi qui vivent comme... dans cette contre-culture-là, au final, qui se mettent en opposition au capitalisme ou à cette culture-là, puis aussi qui n'ont pas nécessairement tous eu le choix de le faire, qui sont peut-être mis dans cette situation-là aussi. T'sais. C'est aussi comme la difficulté du climat au Yukon, tout ça, je veux dire, comme il y a cette espèce d'aspect de la nature est plus grande que les humains aussi. T'sais. Puis ça, je pense que... c'est difficile, je pense que c'est comme un aspect à garder en tête parce que c'est difficile pour nous de le comprendre ici, là, je veux dire, comme puis dans notre confort et tout, puis de se mettre dans la place des personnages puis de comprendre mieux ces dynamiques-là. Mais un énorme clivage qui est comme, je veux dire, comme qu'on voit au quotidien de plus en plus aujourd'hui autour de nous de toute façon, puis on est confronté à ça, puis on devrait l'être, tu sais, je veux dire, comme... si on parle juste des personnes en situation d'itinérance à Montréal et tout, je veux dire, comme il y a plein de gens autour de nous qui sont précaires, puis on le voit, puis... il n'y a pas beaucoup de très bonne gestion de tout ça en ce moment, malheureusement, tu sais. Mais je pense que ça nous offre ce reflet-là. Puis encore une fois, tout ce qui humanise ou qui représente avec nuance une personne sans justement la victimiser ou la misérabiliser, je pense que ça aide mieux comprendre et à mieux se comprendre aussi. Puis, parce qu'on est tous proches de ça, au final, la précarité. Je veux dire, comme dans cette crise du logement, dans tout ça, je veux dire, comme on n'est pas très loin là, de se ramasser dans la rue. Là.
Absolument.
Hey, on a vraiment eu une entrevue. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, c'était intéressant. Je vous rappelle, donc, j'étais avec Mireille Dauphin et Mélissa Higuère qui vont participer, donc, dans la distribution de la version qui n'intéresse personne, présentée au Centre du théâtre d'aujourd'hui du 15 septembre au 10 octobre prochain. Puis ça va être au Théâtre du Trident. On va les dates rapidement. On ne se rappelle pas. Dans quelle date? Au mois de novembre.
Oui, au mois de novembre.
Au mois de novembre. Merci beaucoup, toutes les deux. Merci. Et puis, après la pause, nous, on va faire un petit tour des nouvelles du Canada français. Petite minute de pause, ça va nous faire du bien. À tout de suite.